Thank you. Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce soir pour partager ensemble quelques passages de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais prier pour commencer. Je vous prie d'incliner vos têtes là où vous êtes. Seigneur Jésus, toi qui es l'alpha et l'oméga, nous voulons te mettre au commencement de ce temps. Merci pour ta souveraineté qui demeure dans ces temps troubles. Je te prie au travers de ce temps de venir nous édifier par ta parole. Je te prie pour mon frère, ma sœur qui me suit en ce moment, qu'il soit édifié, transformé par la puissance de ta parole. Merci pour ta présence parmi nous, par ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons commencé notre deuxième semaine de confinement. Nous avons fait 2 semaines de confinement. Et selon que vous vivez en famille ou seul, vous ne vivrez pas le confinement de la même manière. Selon votre situation, votre contexte, vous ne vivez pas le confinement de la même manière. Selon que vous êtes dans un petit appartement de 15 mètres carrés ou dans une grande maison avec un jardin, vous ne vivez pas le confinement de la même manière. Selon que vous êtes malade ou en santé, selon que vous travaillez à distance ou que vous ne travaillez pas du tout, vous ne vivez pas le confinement de la même manière. Et il y a des nouveaux challenges qui surviennent du fait qu'on est à la maison. Avant, par exemple, il y avait 3 lieux pour vous, selon votre profil. Si vous êtes, par exemple, un père de famille qui travaillait dans une entreprise et qui servait à l'église, vous aviez 3 lieux pour ces 3 fonctions. Vous aviez le travail, votre boulot, votre lieu où vous travaillez pour pouvoir être consultant, cadre, pour pouvoir travailler. Vous aviez l'église pour pouvoir servir Dieu et vous aviez la maison pour pouvoir être père et mari. Mais aujourd'hui, vu que vous êtes confiné, vous devez remplir toutes ces casquettes-là en un même lieu chez vous. Et donc, ça nécessite, ça amène, apporte un challenge parce que vous devez organiser votre temps à la maison pour pouvoir remplir ces 3 fonctions. Donc, ceci est un exemple pour vous dire que le confinement amène des challenges et vous le savez, vous le vivez, je ne vous apprends rien. Mais j'ai une bonne parole ce soir, j'ai une parole d'encouragement qui, je crois, vient de Dieu. C'est que cette période de confinement peut être mise à profit. Cette période de confinement peut être exploitée et rentabilisée. Et j'aimerais prier pour vous que votre période de confinement puisse être un temps de préparation pour le futur. Je prie pour vous dans le nom de Jésus, que ce temps soit un temps de préparation pour le futur. Amen. On a plusieurs exemples bibliques de personnes qui se sont mises en quarantaine. On a l'exemple de Moïse qui s'est isolé pendant 40 jours pour recevoir les tables de la loi. On a l'exemple de Jésus qui s'est isolé pendant 40 jours pour être rempli du Saint-Esprit, commencer son ministère. On a aussi l'exemple de Paul qui s'est isolé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, au désert d'Arabie avant de commencer son ministère. Il ne s'agissait pas de confinement strict, il n'était pas dans des endroits hermétiquement fermés, certes, mais il s'agissait de mise en quarantaine, il s'agissait de moments où ils étaient seuls, isolés, pour pouvoir chercher la face de Dieu. Et ces temps-là les ont préparés à chaque fois à leur futur. Chacun de ces personnages, chacune de ces personnes a utilisé, exploité ces temps de quarantaine, de confinement, pour pouvoir préparer son futur et sa destinée. Et j'aimerais vous dire que Dieu veut que vous puissiez exploiter votre temps de confinement pour préparer votre futur. Amen. Dieu veut que vous puissiez exploiter ce temps-là pour méditer, étudier, pour grandir spirituellement, pour vous rapprocher plus de lui, pour réfléchir à votre futur, réfléchir à vos projets, réfléchir à ce que vous voulez faire de votre vie, réfléchir à votre conception des choses, à votre théologie. Dieu veut que vous puissiez exploiter ce temps de confinement-là pour sa gloire. Amen. Il y a un principe spirituel pour préparer son futur. Ce principe, c'est de commencer par la fin. Lorsqu'un concessionnaire veut créer une nouvelle voiture, il commence d'abord par la fin. Il commence d'abord par dessiner le modèle abouti. Il commence d'abord par dessiner toute la carrosserie, dessiner le moteur, dessiner le modèle abouti et définir exactement comment ce modèle abouti va fonctionner. Donc, il commence par la fin. Et ensuite, il revient pour pouvoir construire selon ce qu'il a dessiné et conçu. Lorsqu'un architecte, lorsque quelqu'un veut construire une maison, il fait appel à un architecte qui dessine la maison finale, le modèle abouti, la maison finale, avant de commencer à acheter des briques, acheter du ciment et à construire. Donc c'est un principe qui est de commencer par la fin pour réussir tout projet. Et ce principe-là, j'aimerais vous dire qu'il est également spirituel. L'apôtre Paul nous dit de commencer par la fin. Je prends l'exemple de 1 Pierre. Chapitre 4, verset 7, où c'est l'apôtre Pierre qui commence en disant: La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vaquer à la prière. Donc, l'apôtre Pierre est en train de donner un principe spirituel, le principe que on doit ajuster nos actions présentes à cause de la fin, puisque la fin est proche à cause des événements qui vont arriver à la fin, nous sommes appelés à ajuster notre comportement actuel et à être sages et sobres. L'apôtre Paul également aux Philippiens va dire quelque chose de similaire, le principe de commencer par la fin. Il dit: Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait en vue un but, une finalité, une fin. Il avait en vue cette ligne d'arrivée-là et il ne marchait pas vers cette ligne d'arrivée, mais il courait, il n'avançait pas à pas lent, mais il courait vers ce but-là. Et il commençait par la fin, il avait une visualisation prophétique de la fin et donc il pouvait courir vers la fin. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, autrement dit pour arracher les récompenses célestes, l'apôtre Paul avait pris le temps de s'arrêter et de déterminer ce qu'il devait faire pour atteindre ce but-là. Les récompenses célestes sont invisibles. Donc, si l'apôtre Paul arrivait à courir vers ce but invisible, c'est parce qu'il prenait le temps de visualiser ce but invisible. Et Dieu veut se servir de cette crise de coronavirus, de ce temps de confinement, pour qu'on s'arrête, qu'on visualise la fin, qu'on visualise les récompenses célestes, qu'on visualise le ciel, qu'on visualise les choses qui sont après la mort, afin de pouvoir nous arrêter, définir étape par étape, comme cet architecte, comme ce concepteur automobile, définir étape par étape les actions spirituelles que nous devons mener dans notre vie pour pouvoir atteindre ce but final. Amen. J'espère que je suis clair. Je continue en disant que il est impossible finalement de réussir sur cette terre sans méditer sur le ciel. Il est impossible de réussir sur cette terre sans méditer sur le ciel. On peut réussir matériellement et socialement sur terre, oui, sans méditer sur le ciel. Mais on ne pourra jamais réussir spirituellement, c'est-à-dire accomplir les œuvres que Dieu a prévu d'avance pour nous, si nous ne méditons pas sur le ciel. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en quelques minutes, j'aimerais vous partager 7, voire 8 choses que tu dois savoir sur le ciel. 7 choses que tu dois savoir sur le ciel. Si tu es prêt pour commencer, tu peux dire Amen. Amen. J'ai entendu ton Amen. Amen. Donc, la première chose à savoir sur le ciel, c'est qu'il n'y a pas un ciel, mais deux cieux. Il n'y a pas un ciel, mais deux cieux. Avant la croix, tous les morts allaient dans un endroit appelé le Hadès. Le Hadès, c'est un endroit divisé en deux. Il y avait le sein d'Abraham, encore appelé le paradis, où allaient ceux qui avaient cru en Christ. Et puis, il y avait le mauvais séjour des morts, où allaient ceux qui n'avaient pas cru en Christ, même par anticipation, ceux qui n'avaient pas cru en Christ ou ceux qui ne s'étaient pas confiés dans la loi de l'Éternel. Il y avait le sein d'Abraham et le mauvais séjour des morts. Et lorsque Jésus est ressuscité, Jésus a pris ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et les a emmenés au ciel. Ce ciel-là, on va l'appeler le ciel actuel. C'est là où actuellement, lorsque nous mourons, nous allons. C'est un ciel actuel. Mais la première chose à savoir donc sur le ciel, c'est que ce ciel n'est pas un ciel définitif. Ce ciel-là, ce n'est pas le ciel qu'il y aura à la fin des temps. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un grand jugement qu'on va appeler le jugement du trône blanc. Et à la suite de ce jugement-là, le ciel actuel, là actuellement où vont ceux qui sont morts, ce ciel-là va être détruit et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça, on peut le lire dans Apocalypse 20 au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Apocalypse 21 verset 1 continue. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Avant la croix, donc, je disais que on allait dans le sein d'Abraham, ceux qui avaient cru allaient dans le sein d'Abraham. Mais actuellement, lorsqu'on meurt, on va au ciel, dans un endroit avec Jésus où le Seigneur réside. Mais comme ce verset qu'on vient de lire nous le montre, lorsque Jésus viendra apporter le grand jugement du trône blanc, ce ciel sera détruit et il y aura des nouveaux cieux. Dans la chronologie des événements, actuellement, nous nous rapprochons de la fin des temps. Et la Bible dit qu'un jour, il y aura l'enlèvement de l'Église. Donc, Jésus va descendre sur les nuées et tous les morts en Christ ressusciteront. Et ceux qui sont aussi en vie et qui sont en Christ seront enlevés. Donc, il y aura l'enlèvement de l'Église suivi d'une période de tribulation de 7 ans où l'Antéchrist va régner. Et ensuite, il y aura le millénium où pendant 1000 ans, Christ va revenir pour régner sur terre. Et c'est à la fin du millénium qu'il y aura la création de ce nouveau ciel. Pour avoir la chronologie, il est important d'avoir un portrait global de ce qui va se passer. Donc, la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, la tribulation de 7 ans, le millénium, période de 1000 ans, et ensuite la création de nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Et ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, ce n'est pas le ciel actuel. Amen. Donc, c'est la première chose qu'il faut retenir. C'est que le ciel actuel n'est pas le ciel final, le ciel éternel, le ciel définitif. La deuxième chose qu'on peut noter, ou la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel sera notre corps au ciel? Aurons-nous un corps et quel sera ce corps-là? Est-ce que nous garderons notre corps? Alors, lorsque nous mourons aujourd'hui, nous quittons notre corps et c'est notre âme qui va au ciel actuel. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 5, partie du verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Donc l'apôtre Paul dit que lorsqu'on meurt, on quitte notre corps. Notre âme et notre esprit quittent notre corps et notre corps reste ici. Voilà pourquoi nous ne devons pas démesurément nous attacher à ce corps-là. C'est bien de prendre soin de ce corps, mais un jour on quittera ce corps. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous allons aller au ciel, nous allons quand même garder une apparence corporelle. Je parle là du ciel actuel, avant la résurrection finale. Lorsqu'il y aura la résurrection finale, notre âme va récupérer notre corps et notre corps sera glorifié. Et nous allons rejoindre Jésus avec ce corps glorifié le jour de l'enlèvement. Mais pour aujourd'hui, lorsque nous mourons, nous sommes séparés, notre âme est séparée de ce corps-là. Mais nous avons quand même actuellement une apparence corporelle. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que tous les textes bibliques montrent que on est reconnaissable. Par exemple, lorsqu'on lit la parabole de l'homme riche et Lazare, on voit que l'homme riche a pu reconnaître Lazare. Et pourtant, on n'est pas encore à l'enlèvement. C'était actuel. L'homme riche a pu reconnaître Lazare. Pourquoi? Parce que même si physiquement il n'avait pas un corps en chair, il avait une apparence corporelle. On ne sait pas exactement comment ça sera. On ne sait pas. Peut-être qu'on ne pourra pas toucher. Peut-être que ce sera de la fumée. Ce sera comme la forme des anges. On ne sait pas. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est qu'on va garder une apparence corporelle. corporelle qui est reconnaissable. Donc voilà pourquoi l'homme riche a pu reconnaître Lazare et l'homme riche a pu reconnaître Abraham. On lit ça dans Luc chapitre 16 au verset 19 à 31. Voilà également pourquoi Pierre a pu reconnaître Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration. Jésus ne lui avait pas dit qu'il était en train de discuter avec Moïse et Élie, mais Pierre a dit, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça veut dire qu'il a réussi à reconnaître Moïse et Élie de par la description physique qu'il connaissait à l'époque de Moïse et Élie. Ça veut dire que les morts actuels sont reconnaissables. On va garder une apparence corporelle, mais le jour de l'enlèvement, lorsque Christ viendra nous chercher, nous allons ressusciter et notre âme va récupérer ce corps actuel là qui est sous terre ou qui ce corps que nous avons. Nous allons récupérer ce corps, mais ce corps sera glorifié, ce corps sera transformé. Ce corps va devenir un corps parfait, un corps qui ne comportera plus aucune imperfection, aucun défaut, un corps qui aura des facultés décuplées, un corps qui ne pourra être plus tenté par le péché. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 53 dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous aurons un corps parfait. Je n'aurai plus besoin de lunettes au ciel parce que mes yeux verront 10 sur 10. Amen. Mes yeux verront 10 sur 10. J'aurai peut-être des abdos, je serai peut-être musclé. Non, je ne sais pas ce que sera mon corps, mais je sais que franchement, le Seigneur me réserve quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur te réserve aussi quelque chose d'extraordinaire. Tu n'auras plus besoin de regarder dans le miroir pour soigner tes acnés. Tu auras un corps parfait. Amen. Tu peux dire Amen derrière l'écran. Tu peux commenter en disant Amen sous cette vidéo. Amen. 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 Donc, on aura un corps glorifié. Donc, on a répondu à la question du ciel. Qu'est-ce que le ciel? Il y en a deux. On a répondu à la question du corps dans le ciel. La troisième question qu'on peut se poser sur le ciel, c'est notre alimentation au ciel. Est-ce qu'on va manger au ciel? Et là, on lit dans Matthieu 26 au verset 29, Jésus le dit, il dit, je ne boirai plus, ça c'était à l'instauration de la Sainte Cène, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà. Aujourd'hui, nous buvons. Là, je bois un excellent café. Aujourd'hui, nous buvons, nous mangeons parce que notre corps en a besoin. Mais lorsque nous allons aller au ciel, nous aurons encore glorifié, ou en tout cas une apparence corporelle maintenant, et encore glorifié lors de l'enlèvement. Et il y aura ensuite les noces de l'agneau. Et là, on va manger avec le Seigneur, on va fêter avec le Seigneur, mais on aura encore glorifié, qui n'aura plus besoin de manger. On va manger par plaisir. Donc, nous mangerons effectivement au ciel, mais ce sera par plaisir parce que notre corps n'en aura plus besoin. Et on voit également que le Jésus ressuscité a cuisiné et mangé du poisson. Lorsque Jésus est ressuscité et qu'il est venu rencontrer Pierre au bord du lac Tibériade, lorsque Pierre était en train de pêcher et il y a eu la deuxième pêche miraculeuse, on voit bien que Jésus a cuisiné et mangé du poisson. Jésus ressuscité, il n'en avait plus besoin, mais il pouvait quand même encore manger. Voilà ce qu'il en est de notre alimentation au ciel. La quatrième question qu'on peut se poser, c'est la question de notre âge au ciel. Quel âge aurons-nous lorsque je vais mourir? Si je meurs à 80 ans, est-ce que je vais avoir mon corps de 80 ans ou l'âge de 80 ans? Il est difficile de répondre précisément à cette question, mais on sait en tout cas qu'on n'aura pas le même âge, c'est sûr, on n'aura pas le même âge au ciel, mais Dieu certainement nous donnera le corps ou l'âge où nous sommes le plus en forme. Ésaïe chapitre 11 au verset 6 nous dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau avec le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant le conduira. Donc au ciel, il y aura des petits enfants et il y aura des adultes. Ça veut dire qu'on gardera un certain âge, mais on ne peut pas savoir exactement quel âge on aura. Mais soyez rassurés que Dieu redonnera votre âge où vous étiez l'âge le plus avantageux pour vous. Amen. Amen. La cinquième question qu'on peut se poser, c'est la question de la mémoire dans le ciel. Est-ce qu'on va se souvenir des événements qui ont eu lieu sur Terre, est-ce qu'on va se rappeler de ce qu'on a vécu sur Terre, des personnes qu'on aimait, des personnes qu'on n'aimait pas, de nos échecs, de nos péchés? Est-ce qu'on va se rappeler de tout ça? La question de la mémoire dans le ciel. Pour ça, on peut lire dans Luc chapitre 16 au verset 25. Dans la parabole de l'homme riche et Lazare toujours, on voit que Abraham dit à l'homme riche qui est dans le mauvais séjour des morts, il lui dit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de souvenir parce que non seulement Abraham lui-même qui est au ciel, donc qui est au sein d'Abraham, mais qui a les mêmes paramètres que le ciel. Non seulement Abraham se souvient de ce qu'il y a eu sur terre, mais également Lazare se souvient de ce qu'il y a eu sur terre. En tout cas, il a la faculté de se souvenir, puisque Abraham lui dit: Lazare, souviens-toi. Donc ça veut dire qu'on gardera au moins certains éléments en mémoire, ça c'est sûr, on gardera certains éléments en mémoire, mais cette mémoire-là sera purifiée de toute culpabilité, de toute souffrance, de toute peine, de tout regret. Mais on gardera, en tout cas pour ceux qui seront au ciel, on gardera en mémoire les événements passés, ou en tout cas certains événements passés. Apocalypse 6, verset 10, nous dit aussi la même chose. Il parle de justes qui s'adressent à Dieu, qui dit: ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Donc on voit que des justes parlent à Dieu. Et ils sont au courant en plus de ce qui se passe sur Terre. Donc, on gardera en mémoire ce qui s'est passé sur Terre et on saura, on pourra voir ou savoir, être au courant de certains événements qui se passent sur Terre. Mais notre mémoire sera purifiée de toute culpabilité, purifiée de tout péché. On n'expérimentera plus aucune peine, plus aucune souffrance parce qu'on sera avec le Seigneur. Amen. Amen. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à commenter, à poser vos questions. Je reviendrai dans les commentaires pour venir vous répondre. Mais n'hésitez pas à interagir et à partager cette vidéo pour le nom de Jésus. La sixième chose qu'on peut aborder, la sixième question qu'on peut traiter, c'est la question des activités au ciel. Que ferons-nous au ciel? Donc, la première chose qu'on fera au ciel, ce sera un culte. On rendra un culte à Dieu. Apocalypse 22, verset 3 nous dit: il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs, donc nous, le serviront et verront sa face. On le servira, on le louera, on le servira, on lui rendra un culte. Une autre version dit: on lui rendra un culte. Donc, on louera, on servira Dieu, on verra sa face, on sera dans sa présence. Donc, dans nos activités principalement, il y aura le culte, la louange, l'adoration au Seigneur. Également, on travaillera. La Bible dit dans 2 Timothée, au chapitre 2, au verset 12, que si nous persévérons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Et si nous le renions, lui aussi nous régnera. Si nous régnerons avec Christ, ça veut dire que Dieu nous donnera du travail, un gouvernement, des villes à gérer, des villes à diriger. Donc, on peut inférer et on peut déduire qu'il y aura là un travail d'administration, un travail de gestion, et pourquoi pas un travail pour faire fructifier, créer des choses. On ne sait pas, mais on peut imaginer. Puisque à la création, à la base, Adam était dans le jardin pour le cultiver et le garder. Il était dans un environnement qui était paradisiaque, mais il travaillait. Il ne travaillait pas avec la peine du travail. Il ne souffrait pas. Tout était parfait. Mais il travaillait pour faire déployer certaines potentialités, pour faire sortir le potentiel que Dieu avait en lui et pour pouvoir gérer, pour pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Donc, il cultivait et gardait le jardin. Donc, on peut croire, on peut inférer et déduire que dans le ciel également, nous aurons des activités. Donc, ça casse la pensée qu'on va s'ennuyer au ciel et que le temps va être long. On ne vivra plus le temps. Lorsque vous vous couchez, lorsque vous dormez, vous ne vous rendez pas compte que le temps passe. Donc vous êtes hors du temps. Donc on ne va pas s'ennuyer dans l'éternité. Certaines personnes disent on va aller en enfer parce qu'il y aura des grandes stars qui vont jouer du pop rock, du rock là-bas, des concerts de rock, et on va s'amuser, on va faire la fête, on va avoir des soirées, parce qu'au ciel, on va s'ennuyer. Déjà, en enfer, il n'y aura pas ça. Mes frères, ma soeur, mon ami, en enfer, mon gars, ça va être compliqué, hein? Je ne te souhaite pas d'aller là-bas. Vraiment. Et si Dieu pouvait te donner une vision, une visibilité sur ce qu'il y avait là-bas, tu ne souhaiterais même pas ça à ton ennemi. L'enfer est 10 fois plus, 1 000 fois plus douloureuse, 1 million de fois plus douloureuse que la plus douloureuse de vos souffrances. La souffrance de l'enfer est terrible. Donc, il n'y aura pas d'amusement, il n'y aura pas de jeu de divertissement en enfer. Par contre, au ciel, on va pouvoir s'épanouir, ce sera merveilleux. Imaginez la plus grande joie que vous pouvez expérimenter, multipliez-la par 1 million et vous n'atteindrez même pas la joie qu'on peut ressentir au ciel. Amen. Donc on ne va pas s'ennuyer, mais on va travailler et on sera hors du temps. On ne va pas sentir le temps passer. La septième et la dernière question qu'on peut se poser, c'est la question des récompenses au ciel. Est-ce que nous aurons des récompenses au ciel? Et la Bible dit très clairement que nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes récompensés par nos œuvres, à cause de nos œuvres. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre verset 13, c'est Paul qui parle, l'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement le fera connaître. On parle là du tribunal de Christ, ce n'est pas un jugement pour aller au ciel ou en enfer, c'est un jugement pour attribuer des récompenses. C'est le tribunal de Christ qui aura lieu juste après l'enlèvement de l'Église. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un a été construite sur un fondement, pardon, si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Wow. Il perdra sa récompense. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas perdre nos récompenses. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas perdre nos récompenses. Donc on voit bien que Dieu accordera des récompenses à chacun individuellement, chacun selon ses œuvres. On ne connaît pas exactement la nature de ces récompenses. La Bible ne nous le dit pas. Mais au travers des textes, différents textes, on peut voir que cette récompense-là diffère en fonction de ce qu'on a fait sur terre. Et je veux vraiment vous encourager dans ce temps de confinement à me réfléchir, à prier, à chercher Dieu, à vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ici? Parce que je veux une récompense au ciel et je veux te servir au ciel. On voit aussi que dans les versets 1 Pierre 5, verset 4, 2 Timothée 4, verset 8, 1 Corinthiens 9, verset 24, on voit dans tous ces textes-là que la récompense sera accompagnée d'une couronne. On ne sait pas ce que seront ces récompenses. Peut-être que ce sera des villes, le gouvernement de ville, certainement. Peut-être que ce sera autre chose aussi. Mais on sait que ces récompenses seront attribuées de façon juste à chaque personne et que ces récompenses seront accompagnées aussi d'une couronne. Donc, on aura tous une couronne. On sait aussi qu'il n'y aura pas de jalousie, puisque le péché n'existera plus, donc on n'enviera pas les récompenses du voisin. Alors, une personne m'a posé cette question que j'ai trouvée un peu pertinente, et même malicieuse. La personne disait, mais si au ciel, je ne peux pas être jaloux de la récompense de l'autre, de celui qui a 2 fois plus que moi, pourquoi alors me battre pour avoir plus de récompenses? Est-ce que vous voyez la question? Il disait, mais puisqu'au ciel, on sera tous dans le bonheur total, celui qui a beaucoup plus que moi ne sera pas plus heureux que moi, donc ça ne sert à rien que moi, je travaille sur terre, il faut juste que je croie, je vais au ciel et je suis tranquille. J'aimerais dire que si quelqu'un a ce genre de pensée-là, ça montre déjà un cœur qui n'est pas circoncis par le Seigneur. Parce que lorsque nous sommes touchés par l'amour de Dieu, que nous connaissons Christ, nous voulons produire le maximum pour lui. Nous voulons le servir au maximum. On voit dans la parabole des 3 serviteurs que le serviteur qui a caché son talent a été jeté au feu. Il a été expulsé, il a été désapprouvé. Mais c'était parce que ce serviteur-là n'avait pas cru en son maître, n'avait pas placé sa foi en son maître. Vous voyez? Donc il y a un lien entre la foi que nous plaçons, la confiance que nous plaçons en Christ, notre salut authentique et ce que nous faisons de ce que Dieu nous a donné. Si nous ne voulons rien faire avec ce que Dieu nous a donné, il y a de fortes chances que nous ne soyons pas sauvés. En tout cas, il faut se poser la question. Voilà. Donc, j'avais à cœur de vous partager ces 7 points. Le thème, c'était Sept choses qu'on peut apprendre sur le ciel. J'ai la conviction que ces temps de confinement sont des temps où vous devez préparer votre futur, où vous devez écrire avec Dieu votre histoire à l'avance, parce qu'il a prévu des choses d'avance pour vous. J'ai la conviction que ce sont des temps comme Moïse, comme Jésus, comme Paul, où vous pouvez préparer dans le jeûne la prière, préparer en famille, préparer le futur, écrire ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez transmettre aux générations futures, écrire ce que vous voulez, comment vous voulez servir votre église locale, comment vous voulez servir l'église EPM, écrire comment, quel projet Dieu veut mettre sur vos cœurs, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. J'ai la conviction que ce sont des temps de préparation pour entrer dans cette dimension-là. Et pour pouvoir préparer son futur, pour pouvoir préparer son futur sur Terre, il faut visualiser la fin. Pour pouvoir courir vers le but, il faut y visualiser le ciel. Voilà pourquoi nous avons pris aujourd'hui le temps de revoir ces 7 points. Alors, je vous invite à revoir la vidéo à la fin de la diffusion de cette vidéo, à la revoir, à la partager massivement, à la revoir, à la réétudier avec un stylo, avec une feuille pour pouvoir noter ces différents points importants. On a vu qu'il n'y avait pas un ciel, mais deux cieux. On a vu deuxièmement que notre corps dans le ciel sera un corps glorifié, qu'on va garder notre identité, qu'on va être reconnaissable, que je resterai un homme, que je resterai une femme au ciel, il n'y aura plus de mariage, mais on va garder une apparence qui nous rendra reconnaissable avec un corps glorifié qui aura des facultés extraordinaires comme le corps de Jésus qui pouvait transpercer les murs. On a vu qu'au niveau de notre alimentation au ciel, que nous pourrons manger même si nous n'avons pas besoin de manger. On a vu quatrièmement que notre âge au ciel, que nous aurons un âge, nous ne savons pas lequel, mais Dieu nous communiquera un âge, l'âge le plus avantageux. Cinquièmement, on a vu que la mémoire dans le ciel sera conservée, mais purifiée de toute tristesse ou de tout péché, de tout remords. Et sixièmement, on a parlé des activités dans le ciel, on a vu qu'on ne va pas s'ennuyer du tout, on a vu qu'on sera en train de travailler, de louer le Seigneur. Et enfin, on aura des récompenses au ciel. Dieu va récompenser chacun, Dieu va te récompenser, Dieu t'a préparé une place, Dieu va te récompenser au ciel. Amen. J'aimerais prier pour vous en terminant. Priez que vous puissiez exploiter ce temps de confinement. Et si vous êtes malade, je vais également prier pour vous afin que la grâce de Dieu soit sur vous. Prions ensemble. Seigneur, je veux te confier, mon frère, ma soeur qui a suivi cette vidéo, je te prie que tu la touches là où elle est dans le nom de Jésus, que ce temps de confinement soit un temps de préparation pour un futur glorieux, qu'il puisse, Seigneur, courir vers le but comme l'apôtre Paul afin de saisir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour mon frère aussi, si mon frère ou ma soeur qui est malade en ce moment, qui a peut-être des symptômes ou qui souffre, je prie, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, supporter la maladie par ta grâce dans le nom de Jésus. Viens visiter chaque personne, viens toucher, viens guérir chaque personne, Seigneur, maintenant au son de ma voix. Je prie, Seigneur, qu'il y ait une différence. Viens changer les statistiques et les diagnostics du coronavirus dans la vie de ceux qui me suivent maintenant dans le nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, pour tout le personnel hospitalier, pour tous ceux qui aident les malades, tous ceux qui travaillent. Je prie que tu sois avec eux comme ces amis du paralytique, qu'ils puissent servir les autres, Seigneur, pour te servir toi. Merci pour ce temps d'études bibliques. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta grâce qui nous accompagne, même dans ces temps difficiles, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.